Eh bien, mes amis, maintenant nous voulons venir à Jacques, la lettre de Jacques dans le Nouveau Testament, près de la fin, juste après la lettre aux Hébreux. Si vous n'avez pas l'habitude de feuilleter dans votre Bible, dans la Bible, eh bien, Hébreux, il y a pas mal de chapitres, et donc c'est juste après Hébreux, la lettre de Jacques. Et nous avons déjà passé un petit moment à regarder le début. Aujourd'hui, nous allons regarder les versets 6 à 8 et nous allons regarder la prière pour la sagesse. Voilà le titre, la prière pour la sagesse. Mais il est bon de recommencer la lecture depuis le verset 1. Je donne lecture donc Jacques, chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toute ses voix. Et c'est la parole de Dieu. La lettre de Jacques est une lettre très concrète. Ceci étant dit, toute la parole de Dieu est très concrète. Et j'espère que dans les dimanches que nous passons ensemble, les temps que nous passons ensemble, vous voyez que même des fois, les textes qui semblent les plus obscurs sont très pratiques, très concrets. Mais on pourrait dire presque que Jacques, c'est l'homme concret par excellence, d'une certaine manière. Et ici, nous avons vu que Jacques prend sa plume et il écrit à des chrétiens, pour la plupart d'origine juive, mais des gens qui traversent des épreuves très importantes, des épreuves qui ont duré. Et surtout, il écrit à des gens pour qui les épreuves de la vie sont devenues des montagnes. C'est pourquoi il les exhorte dans sa lettre à voir ces épreuves comme un sujet de joie complète. Ces gens étaient devenus centrés sur eux-mêmes, et c'est notre danger, n'est-ce pas? Jacques, lui, les recentre sur le but que, dans les épreuves, Dieu poursuit un but. Vous voyez donc, la montagne de l'épreuve commence à prendre une certaine perspective différente. Mais, dit-il, pour que l'épreuve atteigne son but, il faut qu'elle se déroule, qu'elle parvienne à son terme. C'est un peu comme ces prescriptions. Vous allez chez le médecin parce que vous avez un petit problème de santé et il vous prescrit un traitement avec les antibiotiques. Et il vous dit « faites bien attention ». Il faut le prendre jusqu'au bout. Et il y a des insensés. Et vous en connaissez certainement, peut-être même, est-ce que vous en faites partie, que sais-je. Il y a des insensés qui commencent à prendre le traitement, et puis au bout de 2 jours, ça va mieux, n'est-ce pas? Déjà, le fait d'aller voir le médecin, ça va souvent mieux. Mais ça va mieux. Alors, ils arrêtent le traitement. Et bien entendu, le traitement ne sert plus à rien. Peut-être que même ils vont rechuter. Eh bien, c'est la même chose, c'est un peu ce que Jacques il est en train de dire là. Il y a des épreuves, mais ne regardez pas les épreuves. Les épreuves, c'est des outils de Dieu. Et Dieu, il fait quelque chose à travers l'épreuve. Mais attention, attention, cela a une implication concrète. Il faut que l'épreuve arrive à son terme pour pouvoir avoir son effet. Il faut que le traitement antibiotique jusqu'au bout pour vraiment fortifier la condition physique. Alors Jacques anticipe une objection. Une objection. Quelqu'un va lui dire, mais je n'ai pas assez de sagesse pour durer, pour tenir le coup, pour aller jusqu'au bout. Alors il répond, il dit, mais demandez la sagesse à Dieu. Vous n'avez pas la sagesse, demandez la sagesse à Dieu. Et nous avons vu la dernière fois que la demande pour la sagesse, la demande à Dieu pour la sagesse, s'appuie sur certaines réalités. Nous avons tout d'abord vu qu'il y a l'insuffisance de l'homme. L'homme n'est pas capable. L'homme est un incapable, en fait. Celui qui a, il ne demande pas, n'est-ce pas ? Si vous avez la sagesse, vous ne demandez pas la sagesse. C'est précisément la conscience de ne pas avoir la sagesse qui fait que Jacques enjoint ses destinataires, ses correspondants, à la demander à Dieu. Celui qui n'a pas, ne demande pas. Et puis, il y a non seulement l'incapacité de l'homme, mais il y a la pleine suffisance de Dieu. Vous allez demander auprès de ceux dont vous savez qu'ils peuvent satisfaire votre requête. C'est tout à fait logique, tout à fait simple, n'est-ce pas? Vous la demandez à Dieu parce que Dieu a la sagesse et il la donne. Comme nous avons vu, c'est le Dieu donateur. C'est le Dieu donateur. Et effectivement, ici, il y a ce caractère de Dieu. Et c'est ce que Jacques a bien montré, nous l'avons vu la dernière fois, le Dieu donateur. Et il donne sans arrière-pensée. Il n'est pas du monde. Et surtout, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu qui donne sans reproche. Et juste une petite parenthèse, son peuple, ceux qui portent son nom, doivent faire de la même manière. Ça n'est pas parce que quelqu'un a failli 50 fois qu'il faut dire, mais là maintenant ça suffit. Ça c'est la manière des hommes, et il y a une certaine sagesse humaine, terrestre là. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la question. Non, non. Comme le Seigneur a dit à Pierre, 77 fois. Mais Dieu donne sans reproche. Pourquoi? Et nous avons vu cela, nous avons terminé avec cela la dernière fois. Dieu peut donner sans reproche quand nous venons, venons et venons encore. Pourquoi? Parce que en Christ, tout est oublié. Tout est oublié. Et c'est pour cela que Paul peut dire, quiconque est en Christ, il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation. Pourquoi? Tout est oublié. Et immédiatement, vous voyez que nous ne sommes pas en train de parler dans le registre des hommes. Parce que les hommes vous pardonnent, mais trébuchez de nouveau et vous allez voir que c'est pardonné, mais pas oublié. Le pardon de Dieu n'est pas ainsi. Dieu oublie tout. Il est dit qu'il met ses péchés, nos péchés, les péchés de son peuple, il les met dans son dos. Et trouvez le dos de Dieu et vous trouverez les péchés. Et vous risquez de ne pas revenir bien rapidement. Donc c'est ce que nous avons vu. Mais une fois encore, Jacques anticipe une objection. Une objection. Et si vous avez lu sa lettre avec attention, j'espère que vous l'avez fait, vous avez remarqué comme quoi c'est une lettre qui est continuellement très bien articulé. Déjà, on voit qu'il fait des liaisons à partir des mots, mais il se sert aussi d'un certain effet de surprise. On a déjà vu, il salue les croyants auxquels il écrit, les croyants qui sont éprouvés, et il leur dit, au lieu de leur dire salut comme c'est dans notre version, il dit réjouissez-vous, réjouissez-vous. Alors là, après ça, il sait que personne n'est endormi. Tout le monde écoute ce qu'il dit. Réjouissez-vous. Et puis, il leur dit pourquoi il faut se réjouir, mais après cela, il continue en examinant les rouages de ce qu'il vient de dire. Et puis, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu accomplit quelque chose par l'épreuve. Mais, attention, il faut laisser le processus aller jusqu'au bout pour récolter. Et ici aussi, nous avons le même procédé. Vous manquez de sagesse? Allez à la source de la sagesse. Demandez-la à Dieu. Mais attention, attention. On ne vient pas demander à Dieu quelque chose n'importe comment. On ne se présente pas devant Dieu, si on peut dire, les mains dans les poches. Et Jacques anticipe donc une objection. Quelle est cette objection? Il vient de déclarer quelque chose d'apparemment absolu. Vous manquez de sagesse? Demandez-la à Dieu et elle vous sera donnée. C'est absolu. Et nous savons tous ce qui devait venir à l'esprit des correspondants de Jacques. La même pensée nous est venue, la même pensée vous est venue, la même pensée m'est venue à nous aussi. Je demande et je ne reçois pas. N'est-ce pas une réaction courante parmi nous, même si nous n'osons pas la manifester? J'en veux pour preuve les contorsions incroyables dont font preuve les auteurs chrétiens, les prédicateurs chrétiens, les chrétiens eux-mêmes, pour qualifier, pour mettre des qualifications dans les promesses que nous trouvons dans la Bible. Oui, nous lisons que nous devons croire que nous possédons déjà tout ce que nous demandons. Demandez-le et déjà vous le possédez. Mais vous savez, Jésus ne parlait pas dans l'absolu, et il faut ajouter, entre guillemets, selon sa volonté. Donc il faut s'asseoir, réfléchir, quelle est sa volonté et tout ça. Vous savez de quoi je parle. On a tendance à expliquer ce que Dieu dit tellement simplement. Alors, ces choses sont souvent vraies. Le fait qu'il faut demander selon sa volonté, c'est vrai. Mais il y a un point central qui est oublié. On se concentre sur le comment, alors que l'accent n'est pas là. L'accent se situe plutôt sur la nature de l'exercice de la prière, sur les rouages de ce que Jacques vient de dire. Ça n'est pas simplement qu'il faut que j'explique que la prière n'est pas exactement ce qu'on pense qu'elle est et tout ça. Non, il faut voir qu'est-ce que c'est que la prière, vraiment. Et ici, Jacques nous parle de la prière de la foi, parce qu'il parle de quelqu'un qui doute, et ce quelqu'un qui doute n'obtiendra jamais rien à sa prière, en réponse à sa prière. Donc, nous regardons la prière de la foi, mes amis. Et il est temps de démythifier ce sujet. Combien de choses ont été dites qui n'ont rien à voir avec le message de la Bible? Beaucoup de chrétiens craignent d'aborder ce domaine tant il est devenu mystérieux, presque superstitieux, je dirais. On a l'impression que la prière, c'est quelque chose qui est indéfinissable. On prie, mais franchement, on est complètement perdu. Mais il serait bizarre de voir Jacques se concentrer tout d'un coup sur un exercice qui tourne autour de l'homme. Vous voyez, depuis le début de sa lettre, il s'efforce, comme un bon pasteur, il s'efforce de recentrer l'attention de ses interlocuteurs, qui est centrée sur eux-mêmes, et de la focaliser sur Dieu. Alors, il serait vraiment bizarre que maintenant, ils soient en train de dire, mais il faut vraiment que vous fassiez attention, de ne pas avoir des doutes, il faut que vous fassiez attention à la manière dont vous venez, et ainsi de suite. Non, il fait la même chose, il recentre sur Dieu. Il continue dans le même registre. Et c'est pourquoi il montre à ses frères, n'oublions pas qu'il écrit à des frères, il montre à ses frères quelle est la nature de la prière. Il y a beaucoup de choses à dire ici et on va pouvoir simplement les aborder brièvement. Je vous invite à méditer, à ruminer ces choses par la suite, entre vous et en vous-même aussi. Et un premier sous-point, on pourrait dire, que nous pouvons relever ici, c'est que la foi est l'essence de la prière. Alors, vous vous dites, Jean-Claude, franchement, on est tombé dans le truisme là. C'était même pas la peine de se connecter, c'était même pas la peine de passer du temps pour écouter ça. On le sait, n'est-ce pas? C'est évident. Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Est-ce que bien souvent nous ne considérons pas la foi comme un ajout, un additif à la prière? Quelque chose qui permet de donner de la puissance à nos prières. C'est un peu comme l'orgue. Je ne sais pas si vous avez vu les orgues classiques. Alors, on peut jouer sur un orgue classique, ça va faire un certain bruit, mais ça ne fait pas de musique. Il faut mettre la puissance. Alors, on regarde la foi un petit peu comme ça. C'est-à-dire que la prière est là, mais elle manque de puissance, et donc, alors il faut croire. Et puis si on croit, alors là, la puissance, ça va être la dynamite, n'est-ce pas? Cela est faux. Cela est faux. C'est un mensonge du diable. La foi est l'essence de la prière. Si la foi n'est pas au cœur de votre prière, mes amis, alors votre prière n'est pas une prière. C'est aussi simple que cela. Et donc, comment est-ce qu'elle peut recevoir un exaucement? Pourquoi est-ce que cela est important? Eh bien, parce que cette foi qui est au centre de la prière, qui est l'essence de la prière, elle recentre tout sur Dieu. Et c'est ce que Jacques est en train de faire. Est-ce que vous n'avez jamais entendu dire, ou peut-être est-ce que vous n'avez jamais dit vous-même, « Ah, il faut qu'on prie, il faut beaucoup, qu'on prie beaucoup pour ça. Il faut beaucoup de prier pour telle chose parce que là, on est face à un méga obstacle. Là, on a vraiment un gros, gros besoin. Alors, les amis, il faut vraiment qu'on prie. » On entend ça souvent, n'est-ce pas? Peut-être pas dans ces mots, mais c'est exactement la même chose. Où est le centre? Quel est le point focal là? Quel est le point pivotal, si je puis dire? Eh bien, c'est moi. C'est en moi, n'est-ce pas? Il faut que je déploie beaucoup d'efforts pour arriver à convaincre cette divinité qui a peu d'inclination à donner, parce que là, vraiment, je suis en face d'un grand besoin, et donc, il faut que je donne des grandes prières, parce que autrement, je ne vais pas obtenir. Et vous voyez, c'est je. Non, absolument pas. Il ne faut pas plus d'efforts. Il faut voir Dieu sous son vrai jour. Il est le Dieu donateur. Il est le Dieu qui donne. Il est le Dieu qui se plaît à donner. Et comme une petite parenthèse, on se rappelle Daniel. Daniel qui entend qu'il est en danger de mort. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il tombe dans la frénésie de la prière? Non, il prie comme à son habitude, qui est probablement plus que notre habitude. Que dit l'Écriture? Si nous allons dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, nous lisons « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Ou comment pourrait le rendre? Il est impossible qu'il agrée, qu'il exauce. Pourquoi? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire l'exauceur, si on pourrait dire, de ceux qui le cherchent. Où est le centre maintenant? Voyez, l'épreuve a pris une certaine perspective. Parce que maintenant, je ne viens pas avec mon besoin. Je viens à Dieu. Que mon besoin soit grand ou petit. Parce que lui, de toute façon, si c'est grand ou petit pour moi, pour lui, ça n'est ni grand ni petit. Vous voyez, c'est l'essence, la foi est l'essence de la prière. Pourquoi? Parce qu'elle nous met directement en contact avec Dieu, en relation avec Dieu. La vraie prière n'est pas ce que nous faisons, mais à qui nous nous adressons. Et nous pensons à Néhémie avec sa prière flèche, comme on dit, n'est-ce pas? Petite prière, comme ça. Mais elle obtient. Parce qu'il est en présence du roi, il ne peut pas dire au roi, à l'empereur, dire: attendez une seconde, il faut que je prie, Seigneur. On va se mettre à genoux par terre. Alors on va mettre le mouchoir pour pas salir le pantalon et ainsi. Non, non. Pourquoi? Il n'a pas besoin de beaucoup de mots parce qu'il s'adresse au Dieu qui sait tout. Donc, la prière n'est pas ce que nous faisons tant que à qui nous nous adressons. C'est en fait l'application de la connaissance spirituelle que nous avons. Je sais en mon fort intérieur quel Dieu est Dieu. Et donc, je m'adresse à lui. Qui est celui, les amis, que vous avez rencontré dans le salut si vous êtes sauvé? Eh bien, c'est à lui que vous venez. Vous voyez comment tout cela, l'exhortation de Jacques, recentre les choses. Il nous faut faire attention. Ce ne sont pas nos mots, ce ne sont pas tout ce que nous pouvons apporter qui ont vraiment de la puissance. Une illustration peut aider. Il y a encore quelques années, je recevais beaucoup de lettres en provenance d'Afrique. Alors, vous, mes amis d'Afrique qui écoutez, ne pensez pas que je dise de ça d'une façon péjorative, mais parce que, en fait, c'était quelque chose que vous aviez appris de nous, les Français. On recevait la lettre, une lettre qui demandait quelque chose, légitime ou pas, c'était autre chose. Mais il faut tout de suite aller à la 10e ligne à peu près de la lettre pour voir quel est le sujet. Parce qu'on va commencer, j'ai le privilège de m'adresser à votre haute considération, et ainsi de suite. Vous savez, tout le baratin, même encore aujourd'hui en français de chez nous, on a des formules pour la correspondance. Eh bien, souvent, on s'approche dans la prière de la même manière. On s'approche de Dieu. Est-ce qu'on s'approche même de Dieu? Parce qu'on est tellement omnubilé par la manière dont il faut le dire et tout cela. Est-ce qu'il faut sauter à la 10e ligne de notre prière pour arriver au sujet? Et au point où on arrive à ne pas détecter quel est le sujet. Bien entendu, le danger ici, c'est que la prière, d'une certaine manière, devient magique. Ça devient quelque chose qui a puissance avec Dieu. Comme si Dieu était réticent à donner. Mais c'est le Dieu donateur. Et finalement, nous arrivons à nous focaliser, peut-être même à adorer la prière, plus que le Dieu à qui nous devrions apporter la prière. En fait, nous sommes tellement pris par notre prière que nous n'apportons nulle part. Non, la foi est l'essence de la prière parce que c'est Dieu qui compte. C'est Dieu qui compte. Donc, la foi est l'essence de la prière. En deuxième lieu, question, qui prie? Qui exauce? C'est un autre aspect crucial de la prière de la foi. Qui est qui? Nous avons parfois l'impression, quand on entend quelqu'un parler de ses prières, qu'on est en face de quelqu'un, d'un consommateur. C'est quelqu'un qui a un besoin et donc il va là où on le fournit et il se le procure de façon à ce qu'il puisse mener sa vie comme il le juge bon. Même sans aller au niveau de cette caricature, parce que c'est un peu une caricature, n'est-ce pas? N'est-il pas vrai que notre perception de notre statut et de la réalité de Dieu ne sont plus tellement brillants dans nos pensées que le fait qu'il me faut cette réponse à tel ou tel besoin? Je suis tellement omnibulé parce que j'ai un besoin, il faut que j'obtienne la réponse, l'exaucement, on dira même, que finalement, je mets en oubli qui je suis et qui est Dieu. Vous savez de quoi je parle. Que dit l'Écriture? Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 5, il est dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. » Qui est le chef? Qui est Dieu? Celui qui siège dans les cieux, il est celui qui est souverain sur toute chose. C'est celui qui peut faire ce qu'il veut sans avoir à donner d'explication. Et nous, qui sommes-nous? Moi, qui suis-je? Je ne suis qu'une créature. J'ai été fait pour un but. Et pire encore, en raison de mon péché, de mon état de péché, je suis finalement un rebelle. Et si je viens devant Dieu, je viens comme un mendiant. Il ne me doit rien. Tout ce qu'il me doit, je ne le veux pas. N'est-ce pas? Non, je viens comme un mendiant. Est-ce que nous oublions cela? Oh, bien entendu que nous disons que non. Mais ce n'est pas la question que je pose. Si nous gardons cette réalité au devant de notre cœur, des yeux de notre cœur, qui est Dieu? Ce Dieu-là. Et qui suis-je, moi? Alors, ma prière va être bien nettoyée déjà. Et ma prière va être révolutionnée. Je n'aurai pas besoin de me lancer dans toutes ces contorsions pour la qualifier. Parce que déjà, il y aura beaucoup de ronces qui seront ôtées. Une troisième chose qu'il nous faut dire. La voie de la prière est ouverte. La voie de la prière est ouverte. Il est étonnant de voir combien peu notre théologie, ce que nous savons au sujet de l'œuvre de Dieu, combien peu cela affecte notre prière. On parle souvent en parlant de quelqu'un qui croit que finalement l'homme parvient au salut par l'exercice de certaines capacités qu'il a en lui, notamment la capacité de choisir, de décider pour Christ. Et on dit, mais cet homme-là, quand il vient à genoux dans la prière, il est tout à fait inconséquent avec lui-même. Parce qu'il s'adresse, il ne s'adresse pas à la personne qui peut changer, il s'adresse à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui peut changer. Alors on voit très bien cela, l'incohérence de cette personne, l'inconséquence de cette personne. Mais est-ce que nous voyons l'incohérence de celui qui dit qu'il a la conviction que Christ a effectivement sauvé tous les siens sur la croix? Quand il a dit « tout est fini, tout est accompli », voilà, ce n'est ensuite qu'une question de temps, selon le calendrier de Dieu, pour que les élus parviennent au salut. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a cette conviction. Cette personne qui vient dans la prière devant Dieu, avec cette conviction que Dieu a donnée, Christ, et donc en Christ, ne nous donnera-t-il pas aussi toute autre chose? Voilà quelqu'un qui vient avec cette conviction, et pourtant, il ne regarde pas Dieu comme quelqu'un qui donne. Est-ce qu'il n'y a pas là une incohérence? Une incohérence. Quelqu'un qui pense que parce que Christ a parachevé l'œuvre, qu'il a accompli une œuvre parfaite, totale, qui n'a besoin de rien d'autre, qu'en raison de cela, le ciel est absolument ouvert et l'accès au ciel est tout à fait légitime pour chacun des élus. Et cette personne n'exerce pas la prière de la foi. Incohérence, incohérence, là encore. Mes amis, ce n'est pas une question que notre manque de prière ou notre hésitation à prier nous gâche la vie. Non, ce n'est pas que nous savons que nous devrions le faire qui pose le problème, mais que nous avons des tas d'inhibitions qui nous empêchent de le faire, ce n'est pas là le problème. Si nous sommes écrasés par notre culpabilité, ce n'est pas dans nos manquements par rapport à ce que nous devons faire. Non. Le vrai problème, c'est qu'en fait, nous déclarons en réalité, en n'exerçant pas la foi dans la prière, nous déclarons en réalité que l'œuvre de Christ n'est pas accomplie ou qu'elle n'est pas efficace. C'est grave, mais c'est vrai. Parce que si ma foi dans la prière n'est pas au centre de ma prière, et si cette prière n'est pas la prière de la foi, cela veut dire qu'il reste encore quelque chose à ajouter à ce que Christ a fait. Or, Christ dit « tout est accompli » et maintenant le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Mes amis, la question, Christ est-il vraiment mort? Et nous savons qu'il n'est pas mort pour lui, puisqu'il n'avait pas de péché, et que la mort est le salaire du péché. Qu'a-t-il fait par sa mort? A-t-il vraiment accompli parfaitement et dans le salut de tous ceux qui seront sauvés? C'est ce que la Bible dit. Que s'est-il passé lors de la mort de Christ? Nous avons ces paraboles, nous avons ces illustrations devant les yeux. Que s'est-il passé? À ce moment même, lisons ce que la Bible dit, Matthieu chapitre 27. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ce voile qui symbolisait le fait que Dieu, on ne pouvait pas accéder à Dieu comme cela. On ne pouvait le faire que sous certaines conditions, notamment avec le sang de l'expiation qui apportait la paix. Maintenant, le voile est déchiré. Est-ce que les Juifs l'ont recousu? Il y a beaucoup de gens qui l'ont recousu depuis. Mais le voile est déchiré. Donc, l'accès est ouvert. L'accès est légitime pour quiconque a la foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne vient pas. Mais celui que la foi pousse à venir, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et donc, vous voyez, la voie de la prière est ouverte. Si seulement nous avions cela devant les yeux, nous prions plus facilement. Plus facilement. Nous nous occuperions moins de notre grammaire et de notre syntaxe et de toutes ces choses-là. Oh, combien ces choses ne sont pas tellement importantes. Oui, mes amis, Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Prenons donc garde à ne pas venir n'importe comment, surtout à ne pas venir devant un simple fournisseur. Mais, en même temps, le voile est déchiré. Nous sommes fils. Et Hébreux, chapitre 10, nous dit, « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante. » Pas qui vient de l'homme. La route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile. C'est fait par un autre, mais c'est fait pour ceux qui reçoivent la vie de la foi de Dieu. Quel est le côté pratique de cette chose-là? Quelle est la déduction? Quel est l'impact de cela? Approchons-nous donc avec un cœur sincère, un cœur assuré, dans la plénitude de la foi. Voilà ce que Dieu nous enjoint de faire. Celui donc qui vient demander la sagesse à Dieu, le fait avec foi, parce qu'il est conscient de la grandeur de Dieu. Mais il est aussi conscient de la réalité de ce que Christ a accompli. Il se fonde sur le fait que Christ a ouvert la voie. C'est une voie ouverte. Il peut donc s'avancer. Combien nous avons besoin d'apprendre ce qu'est la prière. Et Dieu exaucera tel homme, car ayant donné son Fils, ne nous donnera-t-il pas aussi toute autre chose? La prière, dit Jacques un peu plus loin, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Grande efficacité. Et vous voyez, l'accent n'est pas sur la prière, mais sur le fait que cet homme-là a reçu la justice de Christ. Il est différent maintenant. Mais le passage de Jacques, et nous voulons terminer avec cela, le passage de Jacques nous parle d'un homme qui doute. Un homme qui doute. Et nous voulons voir, nous avons vu la prière de la foi, nous voulons voir maintenant l'homme qui doute. Rappelons-nous que Jacques, ici, ne parle pas à des incroyants. Bien sûr, ils peuvent écouter, mais il destine sa lettre à des croyants. Et il ne parle pas de l'incroyant, mais du croyant. Il écrit à ses frères. Il veut que ses frères se tiennent sur leurs deux pieds, là où Dieu les a placés et dans les circonstances où Dieu les a placés. Et comme vous le savez vous-même, même le croyant peut être un homme qui doute. Il y a tant de choses qui habitent le cœur, des choses même contradictoires. Jacques utilise ici un mot qui indique un esprit torturé, un esprit écartelé. Et il en parle comme d'une condition qui fait obstacle à la prière de la foi. C'est pour ça que c'est important de jeter un œil sur la chose. Il parle à quelqu'un qui peut être croyant, mais qui est saisi par le doute. Un homme dont l'esprit est torturé, est écartelé. Un homme qui a des problèmes, cet état de doute lui voile la présence de Dieu et lui voile la réalité de sa relation avec Dieu en Jésus-Christ. Le doute est grave. Mais il existe. Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas exaucer un homme qui doute, un tel homme? Là encore, il faut veiller à ne pas adopter une perspective qui est centrée sur l'homme dans notre réponse. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Vous voyez, comme un peu, on passe ses commandes, maintenant il y a des gens qui passent leurs commandes par « je suis là, je clique sur tel endroit, je clique sur tel endroit, je clique là, et je valide le panier ». Dieu n'est pas ainsi. Non, pas du tout. Dieu répond, Dieu exauce son peuple. Mais cet homme qui vient dans la prière en doutant, qui est écartelé, il regarde d'un côté, il regarde de l'autre, il se demande, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que j'aurais dû faire ça? Enfin, vous connaissez la situation, n'est-ce pas? Cet homme-là, même si Dieu, ou même quand Dieu lui répond, il ne peut pas voir la réponse de Dieu. Tout au moins, il ne peut pas la voir comme venant de Dieu, parce qu'il ne voit pas Dieu dans sa demande. Il est toujours centré sur le fait, est-ce qu'il demande comme il faut, est-ce qu'il demande la chose juste, ici et ça, et ainsi de suite. Il est centré sur lui-même. Il est comme celui dont Jacques va parler plus loin. Un homme qui regarde dans le miroir son visage, et puis il s'en va et il oublie comment il est. Tout d'un coup, lui qui a vu qu'il est un simple homme, il se pense comme le meilleur de tous les hommes. Eh bien, cet homme-là, qui est pris par le doute, eh bien, il oublie même pourquoi il est venu. Il oublie. Son sentiment de besoin, bien que réel dans l'absolu, n'est que plaqué dans son expérience. Alors, bien entendu, il a un besoin. Et il ressent le besoin. Mais ce n'est pas quelque chose qui, en fait, le met devant Dieu, si je puis dire. Et c'était le problème des destinataires, des correspondants de Jacques, ici. Vous connaissez la situation. Vous priez pour ceci, vous priez pour cela. Mais d'une manière ou d'une autre, votre cœur n'est pas vraiment là, dans la prière pour ces choses-là. Parce que, dès que vous vous levez de votre prière, vous avez oublié vraiment ce que vous demandez. Vous êtes obnubilé par recevoir. Alors, comment est-ce que vous allez voir la réponse? Parce que Dieu ne va pas répondre comme vous l'imaginez. Bien entendu que non. Cet homme-là, même quand Dieu lui répond, il ne voit pas la réponse. C'est pourquoi cet homme est en danger. Il est en danger. Il est ballotté de part et d'autre. En fait, il a perdu son centre de référence. Il vient prier devant Dieu, mais il n'a aucune conscience de qui est Dieu, bien qu'étant croyant. Tout cela. Rappelons-nous comment Paul parle en Éphésiens. Il parle du même esprit. Il dit ainsi, nous ne serons plus quand nous venons à voir la vérité de Dieu. Nous ne serons plus comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Un tel homme est en grand danger. Il est emporté à tout vent de doctrine. Et nous savons qu'il y a toutes sortes de doctrines, bonnes, mauvaises et encore pires. Un tel homme ne peut pas grandir. Il reste dans l'enfance. Il est comme un enfant. C'est même presque de l'infantilisme. Est-ce qu'on donne tout aux enfants? Non, non, car nous savons qu'il y a des choses qui sont dangereuses. Il faut être exercé pour les utiliser. Eh bien, Dieu non plus n'exauce pas à un homme qui se complaît dans l'enfance spirituelle. Rester dans le doute, c'est être dans cet état. Les doutes viennent, les doutes se multiplient, les doutes partent, les doutes reviennent. Oui, ça n'est pas péché. C'est le fait d'être membre d'une race, de la race humaine qui est touchée par le péché. Mais comment est-ce que je traite ce doute? Comment est-ce que je trouve? Qu'est-ce que j'oppose à ce doute, n'est-ce pas? Voilà. Parce que un tel homme est en danger. Mais aussi, un tel homme est dangereux. Est dangereux. Jacques dit qu'il est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Or, dans l'Église, dans la communauté des croyants, on a besoin de stabilité, on a besoin d'enseignement, on a besoin de vérité. Or, cet homme est exactement le contraire, bien que pouvant être croyant. Vous imaginez déjà les ravages qu'un tel homme peut accomplir dans la communauté des croyants. Oh, oui. Aujourd'hui, par exemple, on voit que la mode, c'est au débat. On fait des débats. Alors, on présente les divers aspects, on présente le pour et le contre, on pèse telle chose, mais on amène tel autre facteur pour peser dans l'autre sens, et ainsi de suite. Et après, chacun se fait son idée sur la chose, se fait son opinion, et puis on arrive à un genre de consensus. Tout cela n'est qu'une question d'irrésolution et d'inconstance. Et ce qui était bien il y a encore quelques années, maintenant on rit, on s'en moque, parce qu'on a trouvé quelque chose d'autre, et puis dans quelques années, c'est comme la mode. C'est comme la mode, en fait c'est une mode. Plus rien n'est affirmé avec l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a tant de choses insensées qui se produisent aujourd'hui. Mais celui qui vit la vie de la foi, notamment au milieu des besoins, au milieu des épreuves, qui a besoin de sagesse et donc qui est invité, qui est exhorté à venir dans la prière, pour demander la sagesse, mais qui doit la demander avec foi, de façon à ne pas rester dans l'irrésolution du doute, un tel homme, il doit porter attention à ces choses. Il doit regarder et dire, mais quelle est ma voie? Est-ce que je viens devant Dieu pour la simple raison que j'ai un besoin, pour la simple raison que je suis dans l'épreuve? Ou est-ce que je viens à Dieu parce qu'il est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui occupe ma vision? N'est-ce pas? C'est pour cela que souvent, on a l'image de l'enfant. L'enfant, il est assailli par son besoin, par sa conscience d'être incapable à répondre à son besoin, par la difficulté que crée le besoin. Mais à qui va-t-il? Il va à son père. Pourquoi? Il y a des tas d'autres gens qui sont capables autour. Mais il sait, parce qu'il est uni à son père, d'une union qu'il n'a pas fabriquée. Il est uni à son père et il sait que son père va lui donner ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Il ne sait pas comment il va le faire. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Mais il sait qu'il va le faire. Et ça, mes amis, c'est la foi dans le Dieu vivant. La foi que Dieu donne avec cette nouvelle vie qu'il donne en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a ôté le péché du monde. Il a accompli l'œuvre. Et maintenant, il a pris le sang. Il est allé au-delà du voile. Il n'y a plus de voile. Pourquoi? Parce que le sang est répandu et la paix est intervenue. Mes amis, cela est le statut du croyant, du vrai croyant. Un tel homme, une telle femme, un enfant, n'a pas besoin de venir dans l'irrésolution du doute. S'il le fait, Si vous le faites, c'est parce que vous voyez vos épreuves plus que vous voyez Dieu. Et un mot pour terminer. Merci pour votre patience. Mais un mot pour terminer. Si vous ne connaissez pas ce Dieu, avec cette connaissance intime, cette connaissance qui est la connaissance de l'enfant et du Père, si vous ne le laissez pas ainsi, comment allez-vous obtenir quelque chose de vos prières? Comment allez-vous pouvoir faire face aux épreuves qui surviennent dans votre vie? Pour moi, c'est le désespoir. Mais avec la parole de Dieu, nous avons cette offre de grâce. Nous avons cette espérance en Jésus-Christ que Dieu a fait ce que l'homme ne peut pas faire. Et que quiconque croit au Seigneur Jésus sera sauvé. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun d'entre nous, là où nous sommes, quelle que soit notre situation. Rappelons-nous simplement de ce que Jacques a dit. Mais qu'un tel homme, qu'une telle femme, qu'un tel jeune demande la sagesse avec foi, sans douter. Il y aura des doutes, mais sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Et ce n'est certainement pas ce que vous voulez être. Demandez la sagesse à Dieu, sans douter. Et qu'il soit béni, qu'il se glorifie dans chacune de nos vies. Amen. Et nous parvenons ainsi, mes amis, au terme de notre temps ensemble. C'est une joie de pouvoir partager la parole, de pouvoir plonger le regard dans la loi parfaite de Dieu. Cette loi qui n'est pas comme la loi de Moïse, mais cette loi qui vit dans le cœur. Nous nous réjouissons que cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant vous soit une semaine où vous ayez la bénédiction de marcher avec Dieu. Que peut-être cette semaine, vous découvriez qui est Dieu. Vous qui êtes croyant, mais peut-être vous aussi qui ne l'êtes pas, ouvrez votre cœur. Et Dieu voulant, nous nous retrouverons dimanche prochain, jusqu'à ce que nous trouvons qu'il est prudent de se retrouver. Pour le moment, nous faisons à travers ces moyens et nous remercions le Seigneur qui dirige toutes choses, de nous avoir donné de tels moyens. Réjouissons-nous, chacun d'entre nous, en ce Dieu, et soyez bénis. Ça nous fait tellement plaisir d'être en contact avec vous. Bonne fin de journée, bonne semaine, et à la semaine prochaine, Dieu voulant.